Nous demain. Une émission de Jean-Pierre Estrampe. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons reprendre avec un sujet d'actualité. Une actualité qui n'est pas très positive, c'est le vol des bijoux de la couronne qui s'est passé dans le Louvre ce week-end. Alors évidemment, je ne vais pas vous parler des bijoux, mais je vais vous parler de ce qui est notre sujet central, c'est-à-dire les musées, les bâtiments donc, et la sécurité dans les bâtiments. Alors, ça tombe d'une manière assez curieuse, en même temps que le président de la République a annoncé le lancement d'un grand concours international pour faire une nouvelle entrée au Louvre. Bon, on peut se poser la question de recommencer une entrée, attendu qu'il y avait eu la fameuse pyramide qui avait été le sujet de nombreuses polémiques, qui avait été, on peut dire, commandée et inspirée par le président François Mitterrand. Et donc, le président actuel, Emmanuel Macron, veut certainement attacher son nom à un monument, à un bâtiment, dans une longue tradition, on peut dire, à la fois des royautés et des empires. Et bien sûr, le problème, c'est que cet événement qui vient d'arriver, qui interroge sur le manque de sécurité du plus grand musée du monde qui est le Louvre, nous interroge sur à la fois une politique de grandeur et à la fois cette politique de grandeur qui serait faite au détriment de ce qui est, on peut dire, caché, c'est-à-dire que le vu prendrait la place du caché. Alors, on n'est absolument pas contre la politique de grandeur, d'amélioration, de développement, de création de nouveaux bâtiments. Mais il ne faut pas oublier aussi ce qui est caché dans les bâtiments, et notamment au-delà de ce qui est considéré comme l'utilitaire, c'est-à-dire tous les espaces servants et qui vont jusque à des choses qui apparaissent assez utilitaires comme les vestiaires ou les toilettes. Et à ce sujet d'ailleurs, les syndicats des employés du Louvre avaient, il y a quelque temps, protesté contre justement le manque de tout ce qui était le cachet, la sécurité, les toilettes, et s'insurgeaient contre ce projet, on peut dire, pharaonique, qui va coûter près de 1 milliard d'euros, pour lequel on a lancé un concours international. Alors, je ne vais pas développer sur le concours dans cette première partie. Dans la deuxième partie de l'émission, on reparlera des musées et de cela. Mais je reviens au problème de la sécurité. Alors, la sécurité aujourd'hui, dans l'air du temps, dans l'esprit de l'époque, on a relié la sécurité avec les positions, les opinions politiques. Je m'explique, j'entendais le banquier, propriétaire de journaux comme Les Incorruptibles, Libération, ou, enfin partenaire du Monde, en tout cas positionné à gauche, ce qui n'est pas injure lui faire, mais dire que le but de son groupe de presse, c'était de dénoncer les Troisis. Alors les Troisis, c'était pour lui l'immigration, l'islam et l'insécurité. Alors je ne vais pas vous parler d'immigration ou d'islam qui n'est pas le but de cette émission, mais je vais vous parler de l'insécurité. Alors effectivement, associer cela à des positions politiques me paraît une erreur assez grave, parce que la sécurité, c'est d'abord un devoir du pouvoir, c'est inscrit dans la Constitution, la sécurité des citoyens qui doit être assurée par le régime actuel, en tout cas c'est la République, et je ne vois pas pourquoi on parlerait, comme un ancien ministre de la Justice, du sentiment d'insécurité. Les bâtiments, notamment les bâtiments publics, doivent avoir ce problème de sécurité. Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle de professionnel, d'architecte. Et quand j'ai eu à faire ce qui était à cette époque l'hôtel de région Midi-Pyrénées, qui est devenu aujourd'hui Occitanie, le problème de la sécurité s'était posé sur le projet, et je me souviens très bien, dans une réunion que j'avais eue avec, d'une part les maîtres d'ouvrage et puis les services de la ville, une réunion organisée par le secrétaire général de la mairie de Toulouse à cette époque, et j'ai été dans un conflit brutal, ouvert, avec l'architecte de la ville de Toulouse. Je peux dire son nom, il est décédé depuis, c'était Monsieur Tarius, et dans un conflit violent, parce que il prétendait que je devais faire un bâtiment dans lequel traverser la population et la foule, parce qu'en fait, le fait de faire un bâtiment avec des grilles refermées, des protections, des murs et de la sécurité, c'était aller à l'envers du progressisme, et c'est un mot qu'on en avait attribué à l'architecture, et évidemment peut-être par extension à l'architecte, qui était d'être fasciste. Donc évidemment le mot était lâché, donc si on n'avait pas de sécurité, on était progressiste, et si on avait de la sécurité, on était fasciste. Bien sûr, tout ça est assez ridicule, et le bon sens a permis que l'ensemble des décideurs m'a suivi dans ce qui me paraissait une simple évidence par rapport à la sécurité des personnes, à la sécurité des institutions, et assez fondamentale pour que les bâtiments de la République soient protégés des intrusions et des accidents possibles à ce niveau-là. Alors, pour rester sur ce thème des bâtiments institutionnels, il y a eu un deuxième bâtiment institutionnel à Toulouse quelques décennies après, qui était l'hôtel du département, ce qu'on appelait à l'époque le conseil général. Et donc il y a eu concours, mais là évidemment j'étais pas l'architecte, mais j'étais au jury, et il y avait des projets qui avaient été en compétition. Et effectivement, j'ai regardé dans le choix final du jury, où il restait trois finalistes, il y avait un projet qui était un cercle, on peut dire, refermé, dans lequel il y avait la salle d'assemblée et les bureaux qui étaient refermés à l'intérieur d'une enceinte. Et un projet qui est le projet actuel, qui est de l'architecte américain Robert Venturi, dans lequel il y a toujours une diagonale qui divise le projet, et qui était une rue qui donnait l'accès de la population le long de cette rue. Donc un projet refermé, je ne vais pas reprendre le mot que je vous disais, qui m'avait été attribué, et puis un projet qui était ouvert sur la population, avec une place au centre, etc. Donc, ce projet a été réalisé, et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller dans l'hôtel du département, mais évidemment, vous avez une grille qui a été posée très rapidement. L'accès aujourd'hui est un accès encore plus, on peut dire, sécurisé que l'accès dans des avions à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Et avec un sas de sécurité, il faut déposer ses objets, etc. Je n'ai aucune critique par rapport à cela, mais on a vu que cette utopie de la population qui traversait les bâtiments publics était quelque chose de, hélas peut-être, mais qui n'était plus quelque chose de possible, ou du moins de la manière dont cela avait été pensé. Voilà, donc on va marquer une pause musicale et on va reprendre cette conversation. Je suis à combien ? Thank you. Bien maintenant, nous allons revenir sur les musées et cette fascination que les hommes de pouvoir récents, modernes, actuels ont pour les musées. Et ils cherchent à pérenniser leur nom. Alors on a vu, on a parlé de François Mitterrand avec la pyramide du Louvre, mais il y a aussi Jacques Chirac qui avait fait le musée du Quai Branly pour les arts dits premiers. Et donc Emmanuel Macron cherche à se raccrocher à ses prédécesseurs en voulant créer une nouvelle entrée du Louvre. Mais la question que l'on peut se poser, une nouvelle entrée pour recevoir encore plus de touristes, et est-ce que la finalité des musées est d'avoir une sorte de championship sur le nombre de touristes, de dire on a la plus grande fréquentation du monde par rapport au musée, au Metropolitan Museum de New York, et on a peut-être oublié que la finalité des musées, et on revient à l'actualité précédente, c'était de conserver et de protéger les éléments du patrimoine le mieux possible, évidemment, d'en pouvoir en faire profiter la population, mais on ne peut pas augmenter les flux touristiques au détriment, justement, de la protection de ces objets en question. Et je pense qu'il est peut-être plus sage de limiter le nombre de touristes, dans certains cas, d'essayer de faire des entrées et des flux de plus en plus importants dans ces lieux historiques qui ont forcément, à un moment donné, des limites. Et le tourisme de masse qui est aujourd'hui du fait que les trajets en avion sont de plus en plus bon marché, facile, et on a des afflux touristiques dans les grandes capitales européennes notamment, et cela peut poser un problème. En tout cas, je ne crois pas que cette fuite en avant, en ouvrant encore plus d'entrées et en créant des problèmes de flux, à la fois, je pense qu'il y a un problème aussi de la relation entre les œuvres d'art et les gens qui passent. Il ne faudrait pas, en tout cas, que ça devienne non plus une relation avec l'œuvre d'art, mais surtout le fait de pouvoir avoir dit « j'ai vu la Joconde », ce qui est assez ridicule, et de prévoir aujourd'hui une salle spéciale pour qu'on puisse voir la Joconde et augmenter les millions de populations qui peuvent dire « j'ai pu voir la Joconde ». Ce n'est pas de... On peut dire ce n'est pas de l'art, ce n'est pas de la muséographie, c'est simplement de, on peut dire c'est une icône magique que l'on a pu voir. Tout ça me paraît assez ridicule. Alors, revenons justement à cette définition du musée. Aujourd'hui, on voit dans des revues comme Beaux-Arts Magazine, dans le mois dernier, qui montrait tous les projets nouveaux de musées. Alors, il y a des musées partout dans le monde qui se créent. Et ma corporation d'architectes est totalement fascinée par cela. Donc, c'est en faisant les musées qu'on obtient les fameux grands prix, Pritzker Prize, que l'on dit être le Nobel de l'architecture. Et évidemment, on commence à dessiner des musées dans les écoles d'architecture comme si c'était la finalité. Encore une fois, je dois répéter, ce que doit être un musée, c'est une, on peut dire, c'est une réserve de protection. Dans le cas du Louvre, il s'agit de bâtiments historiques qui ont été adaptés pour des musées. Et dans les pays, notamment les pays de l'Europe, dans lesquels nous avons un patrimoine de bâtiments, et souvent inutilisés, des châteaux qui sont vides, qu'il faut préserver, des églises aussi, certaines, qui ne sont pas vouées au culte, on a un nombre très important de bâtiments, d'entrepôts, comme les entrepôts Lainé à Bordeaux, qui ont été utilisés aussi comme galeries. On a, et à Toulouse aussi, avec justesse, le musée des abattoirs. c'est-à-dire la réaffectation de bâtiments, on peut dire utilitaires, qui ne l'ont plus cette utilité, à des buts artistiques, et cela devrait être une ligne de conduite. Alors, bien évidemment, pour un architecte, réhabiliter un bâtiment ou faire un bâtiment dans lequel il y a très peu de contraintes et qui est surtout dans une course à la forme, puisque, comme je vous dis, c'est assez libre. Si on fait un hôpital, une école, un laboratoire, évidemment, la liberté pour l'architecte est moindre, mais ça n'empêche pas justement la qualité et le travail de l'architecte, qui est d'être fonctionnel et de rendre compte aux utilisateurs de la pertinence de son travail. Et tandis qu'avec un musée n'est pas habité, un musée effectivement c'est une coquille pour des œuvres, et quelque part il y a un côté, on peut dire funéraire, puisque il s'agit pas de vie des personnes et d'interaction avec la vie. Donc les musées, comme je vous disais, devraient être en premier lieu des bâtiments anciens qui sont réaffectés. Ça a un double effet. D'une part, ça coûte moins cher. Et deuxièmement, on a une conservation d'un patrimoine bâti pour lequel on cherche souvent de l'utilisation. En premier lieu. En deuxième lieu, ça peut être aussi des bâtiments neufs. Mais dans ce cas, ce sont des bâtiments dont la finalité n'est pas d'être des prouesses, c'est-à-dire que le musée ne doit pas être lui-même un objet d'art. Ce qui a par exemple été le cas du Guggenheim, où les gens sont allés voir le musée parce qu'il est assez incongru, avec des formes tout à fait étonnantes à Bilbao, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Ça intéresse personne. Il y a les expositions, c'est certain, mais on va voir le musée. Donc là, quand même, quand le musée étant, on peut dire, en concurrence avec les œuvres qu'il est supposé montrer, on est, je crois, sur quelque chose qui est une aberration. Donc, si on prend l'histoire de l'architecture récente, moderne, puisque les musées, comme l'on sait, sont de création assez récente. C'est le premier musée, c'est le Louvre, qui a été fondé par Vivant Denon. Donc après, il y a eu des musées à la suite. Il y a un projet de Le Corbusier, qui n'a jamais été construit, ou du moins il y a eu une tentative au Japon, à Tokyo, de construire un musée qui était un musée à croissance indéfinie. Alors le plan, c'était un plan, d'abord c'était sous une forme, on peut dire, de spirale carrée, et on commençait par un petit noyau, et puis ça se développait tout autour du musée. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est le plan de l'IKEA. Donc IKEA a repris ce plan de Le Corbusier. Évidemment, c'était un bâtiment qui était une sorte de hangar à croissance continue. Il y a également un bâtiment qui a été construit, qui est par le grand architecte Foster, qui est toujours vivant puisqu'il a, je crois, 90 ans actuellement, et continue d'avoir une agence très importante. C'est un bâtiment qu'il a réalisé à l'université de East Anglia, au Royaume-Uni. Et ça s'appelle, c'est le musée Saint-Bury, qui est une fondation. Et son bâtiment est en forme d'un grand hangar métallique, mais il y a un système très sophistiqué de maîtrise de la lumière suivant l'éclairage naturel. Et ce musée est dans la définition que je vous disais, être celle d'un hangar qui abrite les objets. Voilà donc. C'est une réflexion finale sur la modestie que l'on devrait avoir et par rapport à ces objets et que n'ont pas ni les architectes ni les maîtres d'ouvrage. Et je voudrais terminer sur une note que j'ai développée dans les émissions précédentes, c'est le problème de l'économie. Et ça, nous allons reparler dans une autre émission. C'est le problème du coût de ces opérations aussi, on peut dire, prétentieuses que coûteuses pour l'argent public. Donc, je termine sur cette note pessimiste. Et je vous dis à l'émission prochaine sur l'économie dans les bâtiments. C'était Où vivrons-nous demain ? Je remercie Sacha qui est toujours à la technique vigilant et je vous dis à la semaine prochaine.